Merci Joël pour ton exposé qui remplit absolument ce que j'espérais. Donc pour montrer effectivement comment ce cadre aristotélicien sert de support à la pensée, mais comment on le dépasse, tu l'as bien expliqué en introduction, comment le tord, le pauvre Aristote, il doit se retourner dans sa tombe un nombre infernal de fois, il ne se reconnaît pas.
Oui.
Et d'ailleurs, les spécialistes d'Aristote, le vrai Aristote, quand ils lisent les textes et les commentaires du Moyen-Âge, sont effondrés. Mais bon, nous, on le trouve particulièrement vivant et particulièrement vivant et permettant une réflexion très riche. Merci beaucoup pour ça.
Merci beaucoup, Joël. Tu as très bien mis en résonance des textes littéraires et les traités scientifiques, la réception. Or, je ne sais pas si notre collègue avait prévu que des messieurs interviennent dans cette journée consacrée aux femmes, mais bon, je me permets de le faire sous votre contrôle. J'aurais une question et une ou deux remarques. Alors, je partirai par la dernière concernant le motif de la cruantation. Je parle du motif à bon escient, puisque tu le sais très bien, mais quelques-uns peut-être aussi des collègues et des étudiants ici présents les connaissent aussi. Il y a une utilisation littéraire, esthétique de ce motif de la cruantation dans un grand nombre de textes, et sans doute l'exemple le plus connu, c'est celui de Chrétien de Troyes, le Chevalier au Lion. Bien. Et... en t'écoutant, je me demandais, alors, à l'époque, avec Jean-Jacques Vincent Signy, on avait un petit peu travaillé sur le motif de la cruantation, et on avait trouvé qu'il y avait des exemples qui, d'abord, on le trouve dans les motifs folkloriques, en fait, et donc qui datent sans doute déjà dans des exemplats du 10e, 11e siècle. Donc, d'une certaine manière, avant que l'on ait une véritable réception aristotélicienne par les traductions latines ou ensuite par les traductions vernaculaires de la fin du XIIIe siècle. Alors, d'une part, comment tu interprètes éventuellement cette différence chronologique, et d'autre part, une réflexion qui s'apparente à celle du motif de la cruantation. Il y a dans un certain nombre de textes un motif qui peut être comparé à la cruantation, qui n'est pas exactement le même. Je pense par exemple à l'exemple le plus connu, celui de l'Apollonius de Tyr. Apollonius se trouve devant un tombeau où devrait se trouver le cadavre de sa fille. Il est attristé, il est désolé, il doit plaire, il veut plaire, et les larmes ne sortent pas, parce qu'en fait, il ne le sait pas, lui. Mais dans le tombeau, il n'y a pas de cadavre, puisque sa fille n'est pas morte. C'est ce qu'on lui a raconté, mais la fille n'est pas morte. On est dans un processus logique qui est exactement le même, même si il y a une cause et un effet qui ne sont pas les mêmes. On est dans cette comment on peut éventuellement mettre en parallèle cette question. L'autre remarque concerne ce que tu appelais un déterminisme analogique, je crois, à propos de la phénoménologie des comètes. Et c'était très intéressant, et en t'écoutant, je me disais qu'il me semblait que cet élargissement de la liste des causes produites par l'apparition des comètes était en partie dû à la pratique de l'observation que l'on retrouve dans le processus cognitif aristotélicien. J'essaie de m'expliquer plus clairement. Qu'est-ce qu'il dit Aristote? Tu l'as rappelé. Les comètes sont dues. Alors, les comètes sont dues au vent, bien sûr, et à l'absence de pluie. C'est évident, d'une certaine manière, puisqu'on ne peut pas voir les comètes dès lors qu'il pleut parce qu'il y a des nuages. C'est l'incapacité à les observer qui détermine les conditions que l'on rattache au processus d'apparition, soi-disant, des comètes. Et d'une certaine manière, il me semble que l'élargissement de la liste des catastrophes que signalent, dont les comètes seraient le signe, est en partie lié à cette même logique. Comme on a de plus en plus d'apparitions c'est-à-dire de capacité de voir les comètes, et comme les catastrophes naturelles ne sont pas innombrables d'une certaine manière, on a de plus en plus besoin de justifier la vision, le fait qu'on a eu des apparitions, dans tous les cas qu'on a eu des constats, avec quelque chose qui a dû se produire. Et naturellement, les causes humaines, c'est-à-dire la mort de rois ou des batailles, etc., fournissent une liste, pas infinie, mais quand même beaucoup plus importante par rapport aux catastrophes naturelles. Je voudrais un petit peu savoir ce que tu en penses. Et enfin, j'ai vu que tu as évoqué... Pardon ?
Je vais essayer de ne pas oublier tout.
Oui, oui. Et enfin, j'ai vu que tu as utilisé Jean Chopinel, Jean Demain. C'était très intéressant, cette deux phrases célèbres sur la génération et la corruption. Et là, la question est très simple. Comment tu vois le rôle de médiateur d'Alain Delisle dans ces phrases-là qui sont en partie reprises des traités d'Alain Delisle?
D'accord. Bon, alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire sur la cruantation. Donc, effectivement, il y a effectivement des... Tu as tout à fait raison. C'est quelque chose qui existe dans une tradition folklorique, en tout cas, qui est reproduite par écrit, hein, dans des narrations, dans des chroniques, dans des romans. La différence par rapport à ce auquel j'ai fait attention, ce dont j'ai parlé, c'est que les anecdotes dont j'ai parlé sont des anecdotes réelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'une fiction, mais véritablement d'anecdotes qui sont répertoriées dans des chroniques, dans des procès, et qui par conséquent signifient qu'on est là véritablement dans des témoignages. Hein. Et deuxièmement, l'intérêt aussi, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est qu'on voit qu'à partir du XIIIe siècle, on ne l'utilise plus comme un phénomène merveilleux ou miraculeux, mais on l'utilise comme un phénomène réel qui peut intervenir comme preuve dans un procès ou comme non-preuve dans un procès. Donc, autrement dit, on le déplace du divin vers l'humain, et dans une rationalité qui est beaucoup plus forte. Alors c'est ce qui explique par conséquent qu'il y a des explications qui sont des explications médicales, celles des questions salernitaines, hein, donc ça c'est celle qui, c'est au contraire, c'est un peu plus tôt, hein, et puis des explications qui se font dans la perspective aristotélicienne de l'effet à distance, et en particulier il y a toutes sortes de réflexions sur la cruantation qui s'apparentent à la réflexion sur l'aimant. Donc ça veut dire par conséquent qu'on a par conséquent ce fond qui est effectivement important d'anecdotes connues, mais on a aussi des témoignages et une espèce de déplacement de la fiction vers la rationalité. Et c'est en ce sens-là que c'est intéressant, et avec Aristote qui devient finalement un élément important pour expliquer rationnellement, pour mettre en fait ce phénomène dans une vision du monde qui est du côté de l'extraordinaire, mais non pas du miraculeux. Voilà. Et c'est vraiment ça qui est le tournant, on peut dire, du XIIIe siècle. C'est-à-dire le déplacement du signe divin vers le phénomène naturel qui peut se justifier. Alors, la deuxième question, c'était à propos des comètes. Alors, pour les comètes, oui. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le fait que la comète puisse être un signe funeste, un signe annonciateur de malheur ou concomitant à des malheurs, ça a été développé aussi lors de la période antique, hein, où on a souvent les comètes qui apparaissent à côté d'autres phénomènes. Ce qui est très frappant, c'est effectivement qu'il y a une mise en relation, là aussi, de toute une série de phénomènes qui jusque-là étaient présentés de manière un peu dispersée et qui, là, sont directement reliés à la question de la comète. Alors, ce que l'on peut dire, bon, je ne l'ai pas donné totalement parce que j'avais ma perspective aristotélicienne, mais pour aller jusqu'au bout de ma pensée, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a l'approche aristotélicienne sur les comètes, il y a aussi une approche qui vient d'un héritage arabe et qui fait des comètes un phénomène qui était la frontière de la zone sublunaire et de la zone des étoiles, et en particulier qui est très utilisé dans une perspective d'astrométéorologie, à savoir que l'on considère que la comète, ça peut naître aussi d'une conjonction de planètes et qu'elle peut par conséquent apparaître comme un moyen de prédiction, hein, comme il y a d'autres moyens de prédiction, aussi bien par effectivement les conjonctions, mais aussi par des coups de tonnerre et par d'autres formes. Alors cela veut dire par conséquent qu'on a vraisemblablement en fait dans cette énumération de phénomènes qui sont des phénomènes donc désastreux, vraisemblablement on a aussi un résumé en fait de tout ce qui peut être annoncé par une comète, non pas en tant que comète, mais en tant que résultat d'une conjonction du ciel, d'un état du ciel, et qui donne lieu par conséquent à des prédictions comme par des horoscopes ou des nativités, etc. Bon. Alors, dans la perspective des commentaires aristotéliciens, généralement, cette perspective d'astrométéorologie est complètement oubliée, puisque les commentaires aristotéliciens essaient de présenter en fait une cosmologie qui soit beaucoup plus conforme au traité des météorologiques. Mais pourtant, et c'est ce qu'on voit dans la traduction de Mailleul-Villain, on a pourtant des échos hein, finalement de cette astrométéorologie qui fait que finalement le développement sur les comètes apparaît comme une espèce de mélange entre d'une part la théorie aristotélicienne, d'autre part des théories médicales et d'autre part de l'astrométéorologie. Le tout mélangé pour expliquer rationnellement ce qui sont des coïncidences, ce qui relève de coïncidences et qui pourtant va être donné comme une espèce d'un ensemble rationnel. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. Alors la troisième question, c'est à propos de Jean Demain et effectivement d'Alain Delisle. Alors effectivement, tu as tout à fait raison, il y a un écho manifeste d'Alain Delisle dans Jean Demain. Mais, comme souvent quand il s'agit de sources du XIIe siècle qui sont réinterprétées au XIIIe siècle, on ne peut pas complètement ignorer le contexte de l'écriture et de la rédaction de l'œuvre. Et ce qui est très frappant quand même, c'est en particulier cette espèce de continuité qui se fait entre l'interprétation physique et l'interprétation morale, qui, elle, n'est pas du tout celle d'Alain Delisle, puisque Alain Delisle, lui, est complètement du côté d'une évocation d'une cosmologie, hein, mais qui, elle, est complètement celle de la poésie du XIIIe siècle. Et je pense en particulier à tout ce qui est cette poésie cléricale qui, justement, fait une dénonciation morale. Alors, l'intérêt avec Jean Demain, c'est justement de faire la jonction entre les deux et d'aboutir justement à un tableau complet qui non seulement rend compte des modifications donc de la nature, mais en même temps met en relation les modifications négatives qui se produisent aussi dans la société. Voilà.
D'autres questions ?
Après l'énumération de questions.
Bien, alors je vous remercie énormément pour cet exposé que j'ai trouvé passionnant, et c'était d'autant plus utile pour moi que je suis à peu près entièrement ignorant sur la pensée du Moyen-Âge. Alors voilà, ma question est celle-ci. Vous avez montré de manière très précise comment la pensée aristotélicienne des comètes arrive finalement dans un débat qui existe déjà, enfin, de multiples théories, bon, qui empruntent pour partie à l'Antiquité et qui pour une autre partie se sont renouvelées probablement au Moyen-Âge. Et vous avez montré comment est-ce que Aristote finalement déplace un peu les choses et en même temps ne les déplace pas complètement, parce que voilà, on voit que Mailleul-Villain interprète Aristote de manière tout à fait médiévale en fait. Mais alors, de manière plus générale, la question que je me posais donc est très simple. Est-ce que avant l'irruption de la philosophie aristotélicienne de la nature au XIIe et XIIIe siècle, il existe déjà en milieu universitaire, par exemple, ou chez les moines, une pensée de la nature constituée, et qui serait non aristotélicienne par hypothèse? Et alors, est-ce qu'on pourrait repérer quelque chose comme des controverses, des conflits? Et est-ce qu'on pourrait repérer ce que change Aristote? Ou bien, alors hypothèse complètement opposée, Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est l'arrivée d'Aristote qui ouvre le champ de la pensée de la nature en général, de la génération et de la corruption au Moyen-Âge?
Voilà une vaste question. Je ne suis pas sûre d'être la mieux armée pour répondre, mais je vais quand même essayer. Alors d'abord, existe-t-il une pensée de la nature avant le XIIe et le XIIIe siècle au Moyen-Âge? Oui, bien sûr. Il y a quand même des auteurs qui sont extrêmement importants. Je pense à Jean-Scott Érigène et d'autres avant qui formulent une pensée de la nature. Est-ce qu'il existe une pensée du changement? Parce que finalement, c'est cela, enfin, me semble-t-il, votre question. Il existe une pensée du changement naturel comme elle existe dans la pensée aristotélicienne avant cette irruption, avant cette espèce de découverte fondamentale de toute l'œuvre d'Aristote. Là, c'est une question qui, pour moi, est un peu plus difficile à dire. Dans la mesure où je pense que la différence entre le XIIe et le XIIIe siècle, les périodes qui existent auparavant, c'est qu'il n'y a pas une unité dans la pensée du changement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une pensée du changement, mais qu'elle ne se présente pas en système. Et je pense que c'est ça la différence. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Sabine, mais je dirais cela. Parce qu'il existe assurément une pensée médicale, des modifications du corps, des altérations du corps, etc. Pour les phénomènes météorologiques, puisque c'est sans doute ça que je connais le mieux, il existe des développements météorologiques, mais qui généralement ne sont pas présentés comme des modifications de la matière de manière aussi forte qu'avec la pensée aristotélicienne. Mais on sait bien qu'il y a quand même des modifications de la matière, mais ça n'est pas présenté en système. Et je dirais que c'est ça la différence, me semble-t-il.
C'est ce qui fait le succès.
Et c'est ce qui fait le succès d'Aristote, absolument. C'est ce qui le fait, en tout cas c'est sûr pour le domaine de la météorologie, c'est sûr, parce que c'est quand même le premier qui donne vraiment cette espèce d'unité et de cohérence par rapport à des phénomènes très disparates, puisqu'on peut se demander ce qu'il y a de commun entre un raz-de-marée, une étoile filante, un tremblement de terre, encore un tremblement de terre après tout, et raz-de-marée, ça se justifie, mais la rosée et d'autres aspects encore, ou la salure de la mer. Et c'est aussi le cas, en fait, pour l'ensemble. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce traité sur les météorologiques est tellement lu, parce qu'effectivement, le premier paragraphe du traité sur les météorologiques, c'est ce qui montre qu'il y a une continuité, en fait, et que l'on parle des plantes, des animaux, du ciel ou de n'importe quel autre phénomène, on est toujours dans un système qui est celui de la cohérence de la pensée aristotélicienne. J'espère avoir répondu à votre question.
Je voulais juste faire un commentaire sur les textes médicaux, en fait.
Oui.
On va reprendre l'exemple de la peste.
Oui.
Et effectivement, la description de la peste, elle existait déjà sous l'Antiquité, avec Procopius, et puis ensuite avec les médecins du Moyen-Âge, et en particulier Guy de Chauliac. Les descriptions telles qu'elles sont faites, elles sont extrêmement justes, en tout cas au niveau des symptômes. Et c'est vraiment, je pense, dans les causes des recherches de la rationalité que évolue la pensée à ce moment-là. Alors, il y a les explications météorologiques, on va dire, entre guillemets, notamment dans les textes de Guy de Chauliac, où on nous explique que c'est la conjonction de Mars, Saturne et Jupiter qui favorise la survenue de la peste. Ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans ces textes, et ce qui m'émerveille toujours, c'est à quel point sont justement décrits les symptômes des maladies, notamment de la peste et la peste pulmonaire dans Guy de Chauliac. Le cadavre qui saigne, c'est quelque chose qui existe et dont on connaît des causes à l'heure actuelle, et par rapport à finalement la fausseté par obligation, on va dire, des causes.
Oui. Alors, en ce qui concerne la question de la peste, je ne l'ai pas développée, parce qu'effectivement, c'est une question qui est bien connue, mais c'est ce qui est très frappant dans les textes donc, qui ont eu lieu en français, c'est justement l'insertion, en fait, de l'explication aristotélicienne des phénomènes naturels dans un contexte médical. Alors, ça n'est pas propre aux Français, puisque ça existe aussi dans des textes latins.
Dans les autres langues vernaculaires, oui.
Tout à fait, tout à fait. Mais il faut reconnaître que l'intérêt des textes en langue vernaculaire, c'est que c'est plus évident, parce que c'est plus bref, et que du coup on voit très nettement l'articulation. Oui, en fait, c'est tout ce que vous dites, c'est tout l'intérêt effectivement du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une tradition, il y en a plusieurs qui se mêlent, qui s'entremêlent et qui construisent un nouveau système. Et c'est ce qui se passe pour la paix, c'est ce qui se passe pour le cadavre qui saigne, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'autres éléments, mais eux qui sont plus traditionnels, où l'on a en fait cette espèce de coexistence, voire de combinaison, de systèmes de pensée qui pour nous sont complètement impossibles à faire coexister et qui pourtant le sont pour construire une nouvelle cohérence en fait. Et c'est ça qui est extrêmement frappant. En ce qui concerne la question donc justement de la météorologie, l'étude des phénomènes météorologiques, c'est finalement quelque chose qui intervient dans la médecine, hein, dans une perspective de médecine météorologique avec la diététique, dans la perspective de l'astrométéorologie et dans la perspective d'Aristote. Alors, en fait, il y a plusieurs tendances. Il y a les tendances, comment dirais-je, des puristes, hein, qui vont rester dans leur système. Donc on va avoir des textes purement de médecine météorologique, des textes purement d'astrométéorologie et des textes purement de météorologie aristotélicienne. Et puis, il y a bon nombre de textes qui mêlent les choses et qui, du coup, aboutissent à faire coexister une manière de penser qui ne nous paraissait pas pourtant possible à faire coexister. Et c'est en particulier le cas pour la médecine météorologique et la pensée aristotélicienne. Dans la médecine, l'air ambiant, les phénomènes naturels de l'air ambiant, ce sont des causes. Mais ça veut dire que, ils sont intéressants parce qu'ils peuvent permettre d'annoncer, en fait, des maladies ou d'expliquer, a posteriori, une maladie, mais on ne cherche pas à en savoir quelle est la cause en tant que telle. Dans la perspective aristotélicienne, c'est la cause qui compte, ce n'est pas tellement la conséquence. Et on a finalement un système qui mêle à la fois la causalité aristotélicienne et une sémiotique d'une certaine manière. Alors ça fait justement des constructions qui sont tout à fait intéressantes, me semble-t-il.
Oui, merci beaucoup pour cet exposé très riche. C'est juste un tout petit point. Vous avez insisté, à juste titre, sur l'importance du concept de génération dans la science médiévale. Et en regardant les citations de Jean Demain, je me suis demandé si le concept, parce que le concept de génération est très est large, donc ça s'applique à la fois à l'animé et à l'inanimé. Le traité de génération et corruption concerne les transformations des substances non animées, mais les citations, surtout la première et la troisième, à mon sens, renvoient davantage à une définition plus restreinte de la génération qui n'insiste pas tant sur la transformation, mais sur la production du semblable par le semblable, donc à la génération dans le monde animé. Donc là, dans la troisième.
Tout à fait.
Mais donc là, la source n'est pas tant peut-être, l'horizon n'est peut-être pas tant le traité de génération et de corruption, mais peut-être plutôt la génération des animaux. Donc
Oui, c'est tout à fait possible, effectivement. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans des commentaires du traité sur la génération et la corruption, il y a le même phénomène, c'est-à-dire visiblement un rapprochement qui est fait entre la génération des animaux et le traité sur la génération et la corruption. Et moi, je trouve que dans l'œuvre de Jean Demain, c'est justement ce qui est très frappant, c'est-à-dire qu'on trouve exactement ces mêmes connexions qui sont faites, en fait. Voilà.
Le micro.
La dernière citation, là,
oui.
De Berthe 1785-92, c'est presque une traduction mot à mot.
Oui.
Du traité d'Alain de Lille.
Hein. Oui,
là,
oui,
je
tout
me
à
souviens
fait.
Du début,
tout
car
à fait.
Toujours chose en général,
tout à fait.
Mot à mot
oui,
d'Alain
tout
de Lille,
fait.
En fait.
Tout à fait. C'est pour ça que, enfin, moi, c'est pour ça que je pense qu'il fait une espèce de mélange. Et Alain de Lille, effectivement, c'est une référence dans une manière poétique d'écrire le monde. Et qu'il utilise par conséquent en ce sens-là, mais en le réinterprétant lui aussi, hein, malgré tout.
Merci beaucoup, Joël. S'il n'y a plus de questions, on va faire une pause de 10 minutes avant d'écouter Sabine. Merci, à tout à l'heure.